15h, presque 10 minutes. Décidément, l'été commence de façon assez raide sur notre planète Terre, cette si belle planète dont on prend pas assez soin, de toute évidence. Des températures mortellement chaudes en Colombie-Britannique, et je choisis mes mots parce que des gens meurent avec cette chaleur torride. On parle de, je pense, ça monte à 49 degrés, une affaire de fou pareil, du jamais vu. Donc, température mortellement chaude en Colombie-Britannique, pluie diluvienne à Tremblant. Là, il pleut fort sur Montréal. Ça, c'est pas si inhabituel là, en plein été d'avoir des gros orages après des grandes chaleurs. Et puis la tornade à Mascouche récemment. Et puis là, deux pieds de grêle dans les Vosges, en France. C'est clair qu'on n'est pas dans une situation normale. Que se passe-t-il? On en parle avec Alain Webster, qui est président du comité consultatif sur les changements climatiques et professeur en économie de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Alain Webster, bonjour.
Bonjour.
Alors, 49,6 en Colombie-Britannique, ces pluies, là, tout ce que je viens de décrire, tout ça, pour vous, c'est en lien avec les changements climatiques?
C'est toujours difficile d'associer changement climatique, qui est des longues périodes de temps, avec un événement spécifique. Mm-hmm. Mais en même temps, ce qui est important de prendre en considération, c'est dans tout ce scénario en matière de changement climatique, on résume ça de façon la plus simple possible, j'augmente les émissions de gaz à effet de serre, il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, ça augmente la rétention de la chaleur sur Terre, la température augmente, et ce phénomène physique, parce que c'est de ça qu'on parle, crée un ensemble de perturbations du climat. Donc, on s'attend à des vagues de chaleur plus importantes, plus intenses, des feux de forêt plus importants, plus intenses, des inondations, la fonte des glaciers, la hausse du niveau de la mer, l'érosion des berges parce que il y a moins de glace en hiver pour les protéger, et puis le niveau de la mer a augmenté, donc les tempêtes sont plus violentes et vont plus loin. Donc, un ensemble de phénomènes qui perturbent l'écosystème et qui vont, bien sûr, avoir des impacts sur la santé. On l'a bien dit tantôt, là, c'est des questions de mortalité, vous avez raison, des questions de santé humaine, parce qu'en même temps, il fait plus chaud, plus d'ozone, plus d'enjeux de polluants atmosphériques, des enjeux économiques catastrophiques, des enjeux, bien sûr, en matière de biodiversité.
On peut même aller jusqu'à la COVID, parce que, dans le fond, certains ont dit qu'avec le déboisement, c'est-à-dire qu'on construit tellement loin maintenant dans la forêt que les animaux ne s'y retrouvent plus et s'approchent de plus en plus des villes.
En même temps, il faut toujours faire un petit peu attention à pas vouloir toujours tout mettre dans tout, là. Mais c'est vrai qu'il y a ces discussions-là. Comment on explique et est-ce qu'on pourrait associer ce type de dérèglement de la biodiversité avec un excès trop grand, finalement, de rapprochement entre l'humain et
certains animaux, on pourrait dire.
Certains animaux.
Ouais, c'est ça. Il y a pas de preuves, mais il reste que ça a été discuté.
C'est ça. C'est un son de cloche, là, qui nous ramène encore. Ce qui est fondamental, vous l'avez dit tantôt, la température, c'est du jamais vu à Vancouver. Mais en même temps, on sait que les dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète. On sait que les dernières décennies ont été les plus chaudes. Je vous parlais de la concentration du CO2 dans l'atmosphère. C'est maintenant un peu technique, là. C'est rendu plus de 400 ppm, parties par million. Ça a toujours été 280 pendant des milliers d'années. Et depuis la révolution industrielle, avec l'énergie fossile, cette concentration augmente et c'est ça qui crée notamment le réchauffement de la Terre. Donc, on sait qu'on est dans une période de changement climatique. L'enjeu, il y en a deux, c'est de se demander comment on minimise ces impacts négatifs. On prend un cas comme Vancouver, au niveau local, ben comment on met en place des stratégies efficaces d'adaptation? Comment on s'assure qu'on n'est pas en train d'oublier les plus vulnérables, tu sais, qui n'ont pas accès à l'air climatisé, qui vont avoir dans des logements un peu plus difficiles? Comment on réfléchit à l'aménagement des villes pour qu'on puisse mettre plus d'îlots de fraîcheur?
Oui, mais ça, c'est tout. Ça prend du temps, là. Ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite? Qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire tout de suite, immédiatement?
Dire aux municipalités et que vous disiez, vous, à votre élu municipal qui se pointe chez vous dans quelques semaines pour son élection municipale de l'automne, vous faites quoi en matière de lutte au changement climatique? Faites quoi en matière d'adaptation? Qu'est-ce qu'on a comme plan? Certaines municipalités ont commencé à faire ça, d'autres pas du tout. Donc, ramener cette question adaptation au changement climatique comme étant une priorité dans l'agenda, y compris à l'échelle locale, juste à Québec et au fédéral.
C'est clair.
Il faut faire ça.
C'est clair que ça passe par le municipal et ça va être très important d'en parler. Puis d'ailleurs, on va en parler bientôt de cet aspect municipal.
Mais ce n'est pas suffisant.
C'est sûr.
Non seulement il faut s'adapter, mais en même temps, il faut s'assurer, conformément à l'accord de Paris, que nous sommes dans une période d'augmentation de température. Mm-hmm. Et à Paris, ce qu'on s'est dit il y a 5 ans, c'est il ne faut pas que la température excède 1,5. Ça va avoir des changements importants à 1,5, mais chaque petit bout de degré au-delà de ça a des conséquences encore plus importantes. Donc, il ne faut pas passer à 2, 3, 4, 5. Pour limiter la hausse à 2,5, le message est clair, il faut que d'ici 2050, l'ensemble des sociétés réussissent à décarboniser leur économie, qu'on n'émette plus de gaz à effet de serre et qu'on puisse avoir transformé notamment l'énergie, qui est en grande partie basée sur l'énergie fossile. Au Québec, c'est encore 50 % de l'énergie qui provient d'énergie fossile. L'électricité, c'est hydroélectrique, ça c'est clair, à 98 % c'est renouvelable, c'est passionnant au Québec. Et dans le reste du monde, c'est pas ça. Fait qu'on performe très bien sur la façon de faire de l'énergie, de l'électricité avec du renouvelable. C'est clair, on est les meilleurs au monde. Le reste, c'est le transport, c'est votre véhicule automobile, le mien, c'est l'ensemble de la consommation de gaz naturel. Ça, ça répond à 50 % des besoins d'énergie.
Sur la planète, oui.
80 % de l'énergie, on a trois petites décennies pour transformer tout ça en énergie renouvelable. Incroyable. Ça veut dire que les gouvernements doivent mettre en place les meilleures stratégies et les consommateurs doivent se dire à chaque fois, quand je vais acheter un bien, notamment un véhicule, est-ce que l'achat que je fais est cohérent avec l'importance que j'accorde au changement climatique?
Tout à fait.
Est-ce que mon véhicule est le plus performant? Oui. Est-ce qu'il n'est pas électrique déjà?
Oui.
Ou est-ce qu'il n'est pas plus efficace?
Oui.
Donc là, il y a une cohérence à faire chez les individus qui est essentielle.
Monsieur Webster.
Et puis un rappel aux politiciens, j'arrête.
Oui, Monsieur Webster, c'est parce qu'il reste vraiment pas grand temps. J'ai encore deux questions à vous poser. Une très brève. Nous, on regarde ça, évidemment. On n'est pas aux spécialistes comme vous. Vous, quel est l'aspect en ce moment qui vous terrorise quand vous regardez ce qui se passe? Puis après, je vais vous demander si vous êtes optimiste ou pessimiste pour terminer. Mais comme, tu sais, moi, je regarde les météos, la température, ça m'inquiète. Mais vous, est-ce qu'il y a un autre aspect là, que vous regardez et vous vous dites, ouf, que ça, c'est pas une bonne nouvelle?
L'indifférence des gens.
Ah.
D'avoir élu quelqu'un comme l'ancien président américain.
Merci de ne pas le nommer.
Exactement. Qui prétendait que ça n'existait pas. Il y a là quelque chose qui est catastrophique en matière d'impact, on le voit bien présentement, mais émettre une tonne de CO2, ça a un impact pendant plus d'un siècle sur le climat. Qu'est-ce qu'on laisse comme terre à nos enfants, à nos petits-enfants? Ouais. Donc, il y a ça, quelque chose de fascinant, de voir à quel point certains individus climato-sceptiques vont se dire « il n'y a rien là, ce qui m'intéresse, c'est à court terme faire le maximum de gains ». Ça me sidère. Parce qu'il y a une façon de s'élever un peu au-dessus de la mêlée et de se dire « concrètement, là, qu'est-ce qui est bon pour moi ?» On veut pas que l'économie soit à terre demain matin, là. Mais on sait, les études le démontrent, et c'est pour ça que je suis en train de répondre à la deuxième question, et c'est pour ça que je vous dis que je suis optimiste, que c'est possible. Et on le voit bien avec le volet énergie. Aujourd'hui, ça coûte moins cher faire de l'énergie à partir d'énergie solaire ou d'énergie éolienne que la faire à partir d'énergie fossile. L'Agence internationale de l'énergie, qui est un organisme des Nations unies, nous dit on n'en fait plus de nouveaux puits de pétrole, on n'en fait plus de nouveaux puits de gaz naturel. C'est plus le temps de faire ça. Il faut penser dans du volet renouvelable. Et c'est ça qui est intéressant. On est en train de créer une nouvelle économie qui va effectivement être prospère, qui va être capable de concilier ces enjeux environnement-économie, mais la transition est difficile, donc il faut s'assurer qu'on fait ça adéquatement, qu'on laisse personne derrière, qu'on supporte les gens qui vont voir leur emploi changer complètement. L'exemple très simple des garagistes, formés pour un véhicule à essence, ben il faut qu'ils apprennent à réparer un véhicule électrique parce qu'on ne va vendre que cela en 2035.
Formation.
Accélérer cette transition.
Oui, on
Pense qu'on va vivre plus heureux, plus serein. J'essaie d'être le plus heureux possible.
On travaille sur les formations. Ça va être essentiel, en effet. Eh bien, un énorme merci, Alain Webster. Vous avez été vraiment très, très convaincant. Et je rappelle aux auditeurs que vous êtes président du comité consultatif sur les changements climatiques et professeur en économie de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Donc, merci beaucoup, Alain Webster.
Bon après-midi.
Merci à vous aussi. Il est 15h19.